Vous écoutez
RMC.
Excellent réveil à tous, il est 7h. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un caillou dans la chaussure d'Édouard Philippe en vue de la présidentielle. Un juge d'instruction va enquêter sur des soupçons de détournement de fonds publics sur des contrats signés à la mairie du Havre. Patrick Bruel déprogrammé alors que les accusations de violences sexuelles s'accumulent. 3 de ses concerts prévus en décembre au Québec sont annulés. Mais à Paris, il fait sale comble. Et puis l'État et les industriels auraient dû réagir plus vite face aux laits infantiles contaminés. C'est ce que dénonce un rapport parlementaire.
C'est donc peut-être un premier obstacle dans la course à la présidentielle d'Édouard Philippe.
Un juge d'instruction va enquêter sur l'ancien Premier ministre et actuel maire du Havre pour des soupçons de détournement de fonds publics, de favoritisme et de prise illégale d'intérêt. Édouard Philippe assure qu'il répondra de façon très sereine. Il conteste les faits depuis l'ouverture de cette enquête par le Parquet national financier en 2024. Enquête sur des contrats signés dans sa ville, Pierre Bazin.
Oui, tout part d'un signalement effectué par une haut fonctionnaire de la communauté urbaine du Havre. En 2023, elle alerte les autorités judiciaires à propos d'un contrat qu'elle juge suspect entre la ville et une association de la commune censée gérer la cité numérique du Havre. Or, selon la plainte déposée, le contrat aurait profité à la présidente de cette association, qui est également conseillère communautaire et adjointe du maire du Havre, une proche donc d'Édouard Philippe. La lanceuse d'alerte accuse le candidat à la présidentielle d'avoir favorisé son adjointe avec un contrat de gestion affiché à plus de 2 millions d'euros. Ce signalement avait débouché en 2024 sur l'ouverture d'une enquête et mené à des perquisitions, notamment dans les bureaux d'Édouard Philippe. Aujourd'hui, c'est donc un juge d'instruction qui doit se pencher sur tous ces éléments et éclairer plusieurs zones d'ombre pour savoir si le contrat en question a bien été attribué dans les règles.
Les premières annulations pour Patrick Bruel, 3 de ses concerts prévus en décembre au Québec sont annulés, annoncent les organisateurs qui évoquent le contexte actuel et l'impossibilité d'assurer la promotion. Le chanteur de 67 ans visé par au moins 12 plaintes pour viol et agression sexuelle et par une pétition pour demander l'annulation de sa tournée. Patrick Bruel, lui, nie les faits et il continue de se produire au théâtre Édouard VII à Paris. Amélie Courtet, malgré les accusations, c'était encore sale comble hier soir.
À la fin de la pièce, Patrick Bruel est applaudi, ovationné par une salle comble.
Je crois qu'il était très touché, il était très ému.
On est vraiment venu voir l'acteur ce soir et on a passé un bon moment.
Les plaintes et les témoignages de femmes contre le comédien s'accumulent, mais ça n'a pas dissuadé Béatrice de passer la porte du théâtre.
Pour l'instant, j'ai pas de raison de ne pas assister à la pièce tant qu'il n'a pas été entendu, tant qu'il n'y a pas eu de décision de justice.
Elle ne comprend d'ailleurs pas l'annulation de 3 de ses concerts au Québec.
Je trouve que c'est un petit peu prématuré, c'est à la justice de trancher.
Beaucoup, comme elle, devant le théâtre, font valoir la présomption d'innocence. Suzette suit l'artiste depuis longtemps.
Je kiffe Patrick Bruel. J'ai pas réfléchi, j'avais mon billet et je comptais les jours et j'avais qu'une hâte, c'était d'être là. Je suis pas atteinte en fait, j'arrive pas à dire qu'il ait pu faire ça.
Plus loin, Thierry laisse lui deviner une petite gêne, le sourire crispé.
On a hésité à venir quand même.
Et vous êtes là ?
Alors on est là parce qu'on a pris les places en décembre, donc avant un petit peu toutes ces affaires et voilà.
Il se dit touché par ces accusations et concède qu'il n'aurait probablement pas acheté de billets s'il en avait eu connaissance à l'époque.
Le reportage d'Amélie Courtet. L'État et les industriels auraient dû mieux gérer la crise des laits infantiles. C'est la conclusion d'un rapport parlementaire. Le scandale avait débuté en décembre avec le rappel de plusieurs lots de lait en poudre suspectés de contenir de la toxine céréulide, une toxine dangereuse pour les nourrissons. Victor Girard, c'est d'abord la réactivité des industriels qui est pointée du doigt.
Oui, Nestlé est accusé d'avoir tardé à informer les autres industriels et les autorités françaises de la présence de cette bactérie identifiée mi-décembre. Les deux députés s'interrogent aussi sur le choix d'avoir attendu le résultat des analyses plutôt que de rappeler d'emblée l'ensemble des lots possiblement contaminés. Autre cible, les autorités sanitaires jugées elles aussi trop lentes à réagir avec près d'un mois avant le déclenchement de l'alerte sanitaire. 14 recommandations sont ainsi proposées dans le rapport pour éviter qu'une telle crise des laits infantiles se reproduise.
Un renforcement des contrôles, renforcer la législation.
Michel Lozana est député Renaissance et l'un des deux rapporteurs.
Se rapprocher au moins de celle des médicaments, qui est beaucoup plus stricte sur les vaccins par exemple. Au moindre doute, on arrête la chaîne et on refait des analyses. Le lait infantile, pour le moment, c'est une législation purement alimentaire.
Les rapporteurs préconisent également de renforcer les critères de sélection des matières premières utilisées dans les laits infantiles et de rendre le site rappel conso plus lisible.
C'est un pas vers un commerce transatlantique équilibré, se félicite ce matin Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, alors que l'UE trouve un compromis sur les droits de douane. Le Conseil européen et le Parlement ont trouvé un terrain d'entente sur cet accord conclu avec les États-Unis l'été dernier. Donald Trump avait donné jusqu'au 4 juillet pour le ratifier. Le président américain qui participera bien au G7 à Évian en France au mois de juin, c'est la Maison-Blanche qui l'annonce après des semaines d'incertitude et d'insistance de la part d'Emmanuel Macron. Les dates avaient même été décalées d'un jour pour permettre au président américain de fêter son 80e anniversaire. On y reviendra bien sûr plus en longueur dans le journal de 8h. Il est 7h05 sur RMC, à 10 jours de la finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Arsenal savoure son titre de champion d'Angleterre. Cela fait 22 ans qu'ils l'attendaient, alors forcément les Gunners l'ont célébré hier soir depuis leur centre d'entraînement. Ils sont assurés du titre à un match de la fin du championnat grâce au match nul 1-1 de Manchester City contre Bournemouth. Le plein de confiance évidemment avant d'affronter le PSG dans 10 jours. En tennis, Carlos Alcaraz déclare forfait pour Wimbledon à la fin du mois de juin. Son poignet n'est pas encore remis, le numéro 2 mondial qui avait déjà annoncé son forfait pour Roland-Garros, alors que les qualifications du tournoi battent en ce moment leur plein porte d'Auteuil, ça a commencé lundi. Eric Salio, des qualifications dans une sacrée ambiance.
Oui, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Pour la petite somme de 35 euros, l'attraction numéro 1, c'est le cours Suzanne Lenglen, opérationnel pendant ses qualifs. Hier, Pierre Gerber a été porté vers la victoire dans une atmosphère de Coupe Davis.
C'est tout de suite l'ambiance de Roland-Garros et ça va durer pendant 3 semaines. On a vraiment de la chance d'avoir ce grand chelem à la maison et on en fait quelque chose de magnifique. Donc je suis assez fier de ce tournoi.
Certains fans préfèrent le cours 14 où Daniel Jatte, 17 ans, va revenir ce matin une deuxième fois.
Sur que le 14, c'est quand même un cours mythique ici à Roland. C'est une sorte d'arène un petit peu où il y a vraiment beaucoup de gens. Et c'est toujours rempli.
La troisième option, c'est de s'installer sur le cours central pour assister aux entraînements des stars. Hier, Valentin a pu observer l'homme au 24 grand chelem.
En plus, moi, j'ai jamais vu. Et Djoko, j'avoue, c'est le GOAT, quoi. Il est trop fort. Ce matin, j'ai regardé les entraînements et j'ai vu qu'il était à 17h. Bah, on aurait bien aimé avoir des places un peu plus proches, mais on est bien là. On va voir Djoko pendant une petite heure et demie, ça va être cool.
Depuis lundi, 40 000 spectateurs ont franchi les grilles de Roland-Garros et la boutique, au souvenir, ne désemplit pas.
Le reportage d'Éric Salio à Roland-Garros pour RMC.
C'était le journal de Clara Gaby et il est 7h07, on part au 32-16. Et vous êtes nombreux à nous appeler pour nous parler de l'état de l'hôpital. C'est votre cas, Sabrina. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Sabrina, vous êtes ASH, c'est-à-dire aide-soignante en milieu hospitalier dans l'Allier, non?
ASH, je vous dis, c'est agent des services hospitaliers qualifiés.
D'accord. Alors, précisez-moi exactement quel est votre rôle.
Alors, c'est le petit personnel qui s'occupe. Bah, de, alors, nous, on remplace tout le monde. Hein, je suis partie de l'hôpital de l'Allier.
Ouais.
Et là, je vais être mise en retraite anticipée.
D'accord.
Parce que j'ai eu un gros accident du travail. D'accord. Et qu'on ne veut plus me prendre. Donc, ça fait 20 ans moi, que je travaille à l'hôpital de Vichy.
Ouais.
Et franchement, je suis écœurée parce que nous sommes maltraités. Alors, nous, on se sert de nous. Ouais. Nous, on remplace les aides-soignants dans les services.
Quand vous dites on remplace tout le monde, ça veut dire quoi, ouais, en effet?
Ah ben, moi, franchement, en 20 ans de carrière, j'ai fait de la stérilisation. Je suis passée par tous les services de l'hôpital. Il n'y en a pas un que j'ai pas fait.
J'ai et fait donc, vous avez vu absolument partout que ça craque?
Ah oui, ça craque. Et puis en plus, on maltraite les patients. Ça s'appelle de la maltraitance parce qu'on n'a plus le temps. Mmh. Nous, on a fait passer des agents en 12 heures. Enfin, les aides-soignants et les infirmiers, pas les ASH. Nous, on nous a réduit les heures. On est à 7 heures. Mmh. Parce que comme ça justifie qu'ils passent en 12 heures. Sauf que les aides-soignants, ils n'ont pas le temps. Et puis, ils n'ont pas l'envie aussi de faire le ménage. Donc, en fait, on a moins de temps et on doit faire plus.
Vous avez moins de temps, vous devez faire plus. Et en même temps, vous allez être mise à la retraite. J'ai un petit peu du mal à comprendre dans un moment où on nous dit qu'il n'y a pas assez de personnel.
Ah, mais vous savez pourquoi? Parce que je leur reviens trop cher et qu'ils ne veulent pas me reclasser. Mmh. Alors qu'ils pourraient, parce que je pourrais très
donc
bien...
Donc en fait, il y a des histoires de statut. Vous vous retrouvez finalement avec si on vous donnait effectivement un autre statut, vous coûteriez plus cher et en même temps, vous faites tous les boulots.
Voilà. Parce que moi, j'ai fait quand j'ai commencé ma carrière, j'ai fait faisant fonction et soignante payée en tant qu'ASH. Mmh. Bien sûr. Mmh. Voyons.
Mmh. Aujourd'hui, vous quittez l'hôpital avec quand même du regret ou avec de l'amertume?
Ah, oui. Parce que c'était franchement ma passion. Et en fait, j'ai vu que le système de santé, c'est le plus inhumain au monde.
Le plus inhumain au monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous y allez la boule au ventre.
Ah, carrément. Et puis moi, vous voyez, au bout de 20 ans, on vous jette. Vous faites ça pour parce que moi, j'avais beaucoup de choses à donner. Et en fait, à chaque fois, on nous jette. Par contre, des cadres, ça, on en a. Et puis, diviser pour mieux régner, je crois que c'est la politique de l'hôpital.
Sabrina, je suis désolée d'entendre votre détresse, mais effectivement, c'est tout un système qui est très complexe avec, comme vous le disiez, des pyramides, des hiérarchies, des coûts qui sont pas forcément bien installés. Il y a une enquête qui a duré 2 ans, qui a été menée par ce journaliste du Parisien qui va venir nous la raconter à 7h40. Ne le manquez pas, vous Sabrina, mais aussi les autres. Sa conclusion, elle est effectivement claire. L'hôpital public est en crise aiguë, urgence vitale. Pourquoi l'hôpital public craque? Ce sera donc à 7h40. Courage Sabrina, il est 7h10. 3000 emplois qui ne verront pas le jour et un investissement d'1,5 milliard annulé tout bonnement. C'est un projet de giga usine de panneaux solaires qui a donc été abandonné à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Jules Nissen.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio avec nous. Vous êtes le président du syndicat des énergies renouvelables. Nous payons cash les décisions, les indécisions justement du gouvernement. Voilà votre parti pris, vous nous le direz dans un instant.
RMC, Apolline Matin. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h14 sur RMC et RMC Story. C'était un gigantesque projet qui devait relancer une filière et l'emploi dans les Bouches-du-Rhône, une méga-usine de panneaux solaires à Fos-sur-Mer. Et elle ne verra finalement pas le jour, c'est ce qu'a annoncé l'entreprise française Carbone hier. Bonjour Jules Nissen.
Bonjour.
Vous êtes président du syndicat des énergies renouvelables. Merci d'être sur RMC ce matin. 3000 emplois directs perdus, 1,5 milliard d'investissements qui ne se feront pas. Pour vous, ce projet, il paye l'indécision de la politique énergétique française et de la politique industrielle européenne.
Oui, c'est vraiment ces deux dimensions. Je vais peut-être commencer par la dimension européenne, parce que la France a quand même essayé de soutenir l'idée de réindustrialiser des filières à partir d'une notion qui est le « made in Europe », le fabriqué en Europe, avec une approche territoriale. Un produit fait en Europe, c'est un produit qui est fait sur le territoire de l'Union européenne. C'est le combat qu'a mené Stéphane Séjourné auprès de la Commission, mais la proposition qu'a mis la Commission sur la table, c'est une proposition finalement d'accord industriel qui inclut dans la zone géographique aussi des pays qui ont un accord commercial avec l'Union européenne.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir l'appellation Made in Europe
sur un produit fabriqué au Vietnam, oui.
Sur un produit fabriqué au Vietnam.
Ça peut paraître assez étonnant, mais c'est comme ça. Je pense que l'idée est de préserver un peu de libre échange et de pas complètement fermer.
Ça veut dire quoi? Attendez.
Ça veut dire
les pays avec lesquels on a un accord de libre échange peuvent être considérés comme du Made in Europe?
Je pense que l'appellation Made in Europe, c'est une concession qui a été faite à la France. Ça s'appelle objectivement pas du Made in Europe comme ça. Alors pour l'instant, c'est pas une décision qui a été adoptée finalement par l'Union européenne, mais c'est la proposition qui a été mise sur la table.
Ça montre l'état d'esprit.
Ça montre l'état d'esprit qui signifie qu'on veut pas complètement fermer, qu'on a du mal en Europe à faire ce que font malheureusement les autres grandes zones économiques du monde, c'est-à-dire dans un certain nombre de filières considérées comme stratégiques, de dire la priorité, c'est de réserver les marchés publics et les commandes publiques finalement à des productions qui sont sur le territoire européen.
Vous me dites même, il faut du protectionnisme. Les États-Unis le font, la Chine le fait, on est les dindons de la farce.
Oui, moi je le regrette un peu parce que le système précédent avait aussi ses avantages, mais aujourd'hui on vit dans un monde où la vocation des forts est de dévorer les faibles. Et je pense pas que l'Union européenne, qui est un des plus grands marchés économiques du monde, ait la vocation d'être faible. La difficulté, c'est qu'elle est composée d'une mosaïque d'États qui ont des intérêts parfois divergents, et on voit bien qu'il y a une grande difficulté à assumer maintenant une politique industrielle qui vient à l'intérieur des frontières, même si ça progresse quand même petit à petit.
Mais est-ce que ça veut dire que ce qui s'est passé à Fos-sur-Mer pour vous est le symptôme, effectivement, de cette incapacité à prendre des décisions en fonction aussi de ce qui se passe désormais dans le monde? Parce que vous le dites, c'était pas forcément souhaitable ce protectionnisme, mais quitte à ce que les autres le fassent, on ne peut pas se retrouver à être ceux qui sont mangés.
Je pense que c'est dangereux. Alors, les panneaux solaires qui représentent quand même la filière énergétique de demain, ils sont aujourd'hui produits en une très grande majorité en Chine, plus de 80%. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut, en Europe, reconstruire une filière de panneaux solaires? Pas forcément pour servir toute la demande, mais au moins pour être capable d'avoir une base de sécurité au cas où il y a une difficulté. Souvenez-vous ce qui s'est passé à l'époque du Covid avec le Doliprane, par exemple. Donc, pour faire ça, pour que des entreprises qui n'ont pas le savoir-faire aujourd'hui puissent se développer, bien, il faut bien qu'elles bénéficient d'un marché protégé pendant un certain temps. Et puis ensuite, la concurrence fonctionnera, il n'y aura pas de sujet. Et c'est ça qu'il faut assumer de vouloir faire. C'est d'ailleurs les réflexions en cours sur les batteries, sur l'automobile, et puis sur les panneaux solaires. J'ai l'impression parfois qu'à Bruxelles, on ne considère pas que c'est particulièrement stratégique de ré-européaniser la filière par rapport à un autre argument qui est celui de la compétitivité de l'énergie et donc essayer d'avoir les panneaux les moins chers possibles. C'est ça qu'on paye aujourd'hui.
Il y a un mot pourtant que les politiques ont souvent à la bouche désormais, et d'ailleurs ça dépasse tous les clivages, c'est le mot de souveraineté. On nous parle de souveraineté alimentaire, on nous parle de souveraineté en matière de santé, vous venez de mentionner le Doliprane et la vente effectivement d'une partie de Sanofi. La souveraineté industriel aujourd'hui, est-ce que vous considérez que c'est un combat perdu ?
Non, pas du tout. Je pense que c'est un combat indispensable. Et moi, je voudrais quand même souligner que le gouvernement français, et ça depuis longtemps, je sais que vous interrogerez Bruno Le Maire tout à l'heure.
Exactement,
il a été un porteur de cette politique. Et moi, j'ai rien à dire à ça. La difficulté, c'est que c'est compliqué de faire une politique industrielle à l'échelle de la seule France, dans la mesure où il y a des règlements liés au droit de la concurrence qui sont établis à l'échelle européenne. Donc, il faut qu'on gagne cette bataille à l'échelle de l'Union européenne. Après, la question des panneaux solaires, c'est un sujet un peu spécifique. Mais je regrette qu'on en arrive là. C'est vraiment dommage.
C'est fichu. Foutu.
Moi, je suis pas à la place de Pierre-Emmanuel Martin, que je tiens à saluer.
Il était à la tête de l'entreprise.
La décision qu'il a dû prendre est vraiment difficile parce que il a fait ça avec un esprit d'entreprise. Dans un pays où on regrette parfois qu'on soit pas suffisamment industriel, il a misé beaucoup d'argent personnel, il a réuni des investisseurs pour faire ça. C'est un projet très territorial aussi, sur la zone industrielle de Fos-sur-Mer, très soutenu par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par son président Renaud Muselier. Et voilà, il y avait beaucoup de dynamique derrière. Bon, finalement, ça fonctionne pas parce que au fond, le porteur de projet maîtrise pas tous les paramètres. Et donc, notamment, cet enjeu européen fait que finalement, les actionnaires qui ont dû se poser la question de se dire, mais si finalement, moi, je peux utiliser dans un appel d'offres public des panneaux qui sont fabriqués au Vietnam ou en Inde.
Pourquoi est-ce que j'irais choisir?
Ça existe déjà. Pourquoi est-ce que je viendrais en faire ici? Donc ça, c'est un premier mauvais coup. Et après, il y en a un second. C'est que pour pouvoir vendre des panneaux solaires, il faut qu'il y ait des gens qui installent des installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires. Et en premier lieu, dans le pays où l'usine va s'installer. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Et là, on tombe sur les aléas de la politique énergétique française. On a eu 5 ministres en 4 ans. Et c'est compliqué d'avoir une politique qui essaie d'être un peu...
C'est difficile de planifier quand on...
C'est très difficile. Alors, Sébastien Lecornu a décidé de publier une programmation pluriannuelle de l'énergie. Je salue cette décision, mais c'est avec 2 ans de retard. Alors, c'est pas sa faute à lui, puisqu'il n'était pas aux affaires avant. Mais comment vous voulez avoir une politique énergétique un peu structurée avec ça? Et du coup, une politique industrielle derrière qui est la conséquence de cette politique énergétique.
Merci. Merci de votre alerte que vous lancez ce matin, Jules Nissen. Vous êtes le président du syndicat des énergies renouvelables. Merci d'être venu sur RMC ce matin.
Merci.
Il est 7h20. Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Dans les rues de Rio, des Brésiliens qui ont célébré la sélection de la star Neymar pour la Coupe du Monde.
Oui, l'affaire a pris une tournure exceptionnelle dans ce pays dingue de foot. Et figurez-vous, Apolline, que même le président brésilien s'en est mêlé.
Vous allez nous le raconter dans un instant. Il y a Arnaud Demanche aussi qui arrive pour pirater l'interview du face-à-face. Ce sera Bruno Le Maire, vous l'avez entendu. Ne bougez pas, il est 7h21, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et vous êtes bien sûr à RMC. C'est l'heure d'Arthur Chevalier, de remonter le temps avec notre historien préféré. Arthur, des journalistes qui applaudissent, une foule en liesse. Lundi soir, le sélectionneur du Brésil a annoncé que l'ancien joueur du PSG, Neymar, ira bien à la Coupe du Monde avec son pays.
Oui, et ça n'avait rien d'une évidence, Apolline, puisque le joueur de 34 ans enchaîne les pépins physiques. Il est très loin d'être au meilleur de sa forme. Alors Ancelotti a quand même décidé de le sélectionner. Une décision qui a donc provoqué des scènes de liesse au Brésil. Et avant même l'annonce de la sélection, le président Lula s'en était mêlé directement. Ancelotti lui avait demandé s'il devait prendre Neymar. Le président lui avait répondu, je cite, « S'il est prêt physiquement, il a le niveau pour ça. »
Oh, d'un autre côté, au Brésil, le football, c'est plus qu'un sport, hein. C'est de la politique.
Et oui, et ça l'a toujours été. Pour le pire comme pour le meilleur, le foot arrive au Brésil à la fin du 19e siècle grâce à des immigrés britanniques. Et alors, à l'origine, c'était un sport pour les riches, hein, un sport très élitiste, le football. Ce qu'on oublie aussi, c'est qu'au début du 20e siècle, la société brésilienne était mais terriblement raciste. C'était une des pires du monde. Seuls les Blancs avait le droit de jouer au foot. Il faut attendre la fin des années 1910 pour qu'un club accepte les Noirs et les pauvres dans son effectif. Ce club, c'est Vasco de Gama, un club de Rio qui existe encore aujourd'hui. C'était une révolution.
Il y a certains joueurs qui allaient même jusqu'à tenter de se blanchir la peau.
Ah, et c'est complètement dingue. Dans les années 1920, la pression raciste était tellement forte que certains joueurs se mettaient de la poudre de riz sur le visage avant d'entrer en jeu pour avoir l'air blanc, tout simplement. Il faut attendre les premières Coupes du Monde remportées par le Brésil en 1958 et en 1962 pour que les mentalités évoluent. Alors pourquoi est-ce qu'elles ont évolué? Eh bien parce qu'en fait, des joueurs noirs se sont illustrés pendant ces Coupes du Monde, notamment Pelé, hein, c'est le plus connu. C'est eux qui ont réconcilié cette société fracturée par le racisme.
Des clubs vont aussi agir directement pour la démocratie.
Et oui, puisque le Brésil, de 1964 à 1985, a été une dictature militaire, hein, et un club de foot va se dresser contre elle. Ce club, ce sont les Corinthians de Sao Paulo. Dans leur effectif, ils avaient la star brésilienne de l'époque, le milieu de terrain Socrates, hein, une légende. En 1980, les Corinthians adoptent un modèle d'autogestion, une démocratie footballistique. Toutes les décisions étaient prises collectivement, du jardinier au président, y compris pour le choix de l'entraîneur. Sur leur maillot, ils font aussi inscrire le mot « démocratie ». C'était évidemment une résistance passive à la dictature.
Pour le président brésilien, c'est très important d'avoir le soutien des footballeurs.
Et oui, c'est même décisif pour l'opinion. La bataille politique se joue aussi sur le terrain du foot. Par exemple, l'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, qui était très très à droite, avait été publiquement critiqué par des joueurs comme Rai, l'ancienne star du PSG, ou Juninho, l'ancien capitaine de l'OL. Au contraire, un des soutiens les plus actifs de l'ancien président Bolsonaro, eh bien, c'était justement Neymar, hein, dont il est question aujourd'hui, qui avait même fait campagne pour lui en 2022, en vain, puisque c'est finalement le candidat de gauche, Lula, qui a été élu et qui est au pouvoir aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ajoute que la prochaine élection aura lieu dans 6 mois au Brésil.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. On accueille Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Et bonjour. Salut Arnaud. Le face-à-face tout à l'heure, mon invité, c'est l'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Oui, l'écrivain, l'homme de lettres, l'académicien. Et alors, attention, Apo, les amis, je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle, mais Bruno Le Maire ne sera pas candidat à la présidentielle, alors que le journal du dimanche affirmait le contraire. Oh non ! Oh non, on avait tellement besoin de lui. Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent qu'on a en trop? Tant pis. Il aurait eu un super slogan de campagne pourtant. Moi, j'en avais un qui était « C'est pas moi, c'est Macron ». Voilà. Un slogan qui peut servir aussi pour Gabriel Attal, Édouard Philippe,
oui,
Gérald Darmanin.
On peut le recycler. C'est pas moi, c'est Macron.
Allez, on va parler argent. Et alors, j'ai lu un truc génial. Les élèves de 4e à la rentrée prochaine auront des cours d'éducation financière. Ça va être super. Des boomers à 2 ans de la retraite vont leur expliquer qu'avec un peu de travail, on peut acheter une villa en 5 ans en étant prof.
Bon, les enfants, alors l'économie, c'est quoi? Moi, j'ai commencé comme stagiaire à la CPAM en 76. Et en 77, quand j'ai fini de payer la maison et que j'avais terminé mes 2 ans d'année sabbatique à Katmandou, eh ben, j'ai pas baissé les bras. J'ai continué à travailler parce que vous voulez pas bosser. C'est dur, mais oui, c'est dur. Évidemment, c'est dur. Vous croyez que je l'ai acheté comment, la deuxième maison à Arcachon? Eh ben, j'ai dû prendre un temps plein. Ça a été les 6 mois les plus longs de ma vie. Mais je me suis accroché. Et vous êtes là, il faut baisser les pensions de retraite. Non, il faut les augmenter. On a cotisé. Vous savez combien ça coûte à chauffer une piscine? Ben non, vous savez pas. Parce que vous vous intéressez à rien. Les pauvres mots. Quand je pense que les cours d'éducation... Ça fait tellement marrer notre génération. Je pense que, un peu moins certains de nos auditeurs, il va y avoir des trucs sur le fil actu, là. Le WhatsApp d'RMC. Quand je pense que les cours d'éducation affective et sexuelle, ça avait déjà révolté à l'époque. Oui. C'est pas de leur âge. Les comptes épargne retraite, c'est de leur âge. On veut vraiment leur parler d'économie à un moment où leurs hormones sont en ébullition. Il faut pas faire ça. Regardez ce que ça a fait à Emmanuel Le Chypre. Oh, une comptable allemande. Non, on ne doit pas faire ça. Alors globalement, la situation économique n'est pas fameuse, hein. Hausse du chômage, inflation à 2%, faillite d'entreprise. En fait,
Emmanuel Macron, on dirait un locataire en fin de bail. Il veut rendre la France exactement dans l'état où il l'a trouvé pour pouvoir récupérer sa caution. Voilà, je vous ai tout remis comme c'était, j'ai remis le chômage, j'ai laissé la retraite tout pareil, je vous ai même remis François Hollande à l'Élysée. C'est là que tu vois que Michael Jackson redevient à la mode. Hein. Macron, il finit tout son quinquennat en moonwalk, il recule sur tout. Je suis mauvais, mauvais, même en économie, je suis mauvais. Et rendez-vous avec Bruno Le Maire, ce sera à 8h30.
Du coup.
Pétante. À tout à l'heure.
Ce sera à 8h30. Allez, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. 7h28.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. C'est le jour J, les premières épreuves pour les bacs professionnels, moment choisi par le gouvernement pour annoncer son projet anti-triche, généraliser les détecteurs d'objets connectés. Emmanuel Moulin face aux accusations de copinage, ce proche d'Emmanuel Macron fait son grand oral devant les parlementaires en vue de sa nomination prochaine à la tête de la Banque de France. Autoritaire, violent et colérique, le portrait accablant dressé à son procès par ses propres enfants de Guillaume Buchy, accusé d'avoir violé et prostitué sa femme pendant 7 ans.
Le gouvernement veut renforcer la lutte contre la triche au bac.
Alors que les filières professionnelles planchent sur leurs premières épreuves aujourd'hui. Dans le viseur du ministre, les téléphones ou les tablettes utilisées comme anti-sèches connectées. Alors Édouard Geffray veut équiper aléatoirement certains centres d'examen de détecteurs. Ils font déjà partie de l'arsenal des surveillants par endroit. De quoi s'agit-il exactement, Louise Salé?
C'est un petit boîtier qui tient dans une main avec une antenne et des écouteurs. Dès qu'un objet connecté est repéré à proximité, il se met à sonner. Sylvie Pénicaud est proviseure dans le Var. Elle se sert de cet outil anti-fraude depuis 2 ans pour surveiller le bac afin de savoir si un smartphone ou une montre connectée est utilisée à 1 mètre de distance d'elle.
Nous en avons 2. Pour moi et l'adjointe, hein. Donc on passe dans tous les rangs avec. C'est hélas pas complètement satisfaisant. On a déjà eu le détecteur qui bipait, on a tourné autour des élèves, on a essayé de chercher dans une zone et on n'a pas trouvé d'objet.
Pour elle, il s'agit surtout d'un outil de dissuasion.
Je suis pas sûre qu'on arrive à tout détecter, hein, honnêtement. Nos appareils ont déjà 2 ans, par exemple, donc ça s'est déjà amélioré. Enfin, ça va très vite. On peut pas racheter tous les ans les appareils.
Ces appareils coûtent près de 500 euros et certains ne sont déjà plus opérationnels pour détecter un objet qui utilise le réseau 5G. Reste que la triche est lourdement sanctionnée. Interdiction de passer tout examen pendant 5 ans.
L'entourage d'Edouard Philippe assure qu'il répondra aux enquêteurs avec sérénité. Le parquet national financier a désigné hier un juge d'instruction pour mener des investigations sur des soupçons de détournement de fonds publics et de favoritisme impliquant l'ancien Premier ministre. Aux fonctionnaires compétents ou simple copain du président, Emmanuel Moulin doit convaincre aujourd'hui les parlementaires, lui, qui est le candidat proposé par Emmanuel Macron pour prendre la tête de la Banque de France. Un long CV en Macronie sous le bras, directeur de cabinet à Matignon et au ministère des Finances, secrétaire général de l'Élysée. Sénateurs et députés doivent l'auditionner puis trancher, mais Sonia Gobry, les oppositions dénoncent soit du copinage, soit de la stratégie politique.
Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, pour le RN c'était déjà trop, alors un troisième fidèle d'Emmanuel Macron à la tête de la Banque de France, c'est non. Le député Jean-Philippe Tanguy y voit une manœuvre politique.
Monsieur Macron veut verrouiller nos institutions avec des personnes qui lui sont entièrement dévouées pour maquiller son bilan économique qui est le pire du pire, puisque entre autres missions, la Banque de France a un grand rôle de prévision et d'analyse de la conjoncture économique et budgétaire.
Comme le RN ou les socialistes, l'insoumis Éric Coquerel estime qu'il y a un problème d'indépendance.
Le fait que Emmanuel Moulin sorte directement de l'Élysée pour devenir gouverneur de la Banque de France en ayant cumulé depuis des années des postes politiques, moi ça me paraît totalement rédhibitoire.
Un procès d'intention, dénonce le macroniste Pierre Cazeneuve.
Dans ce cas-là, personne n'est qualifié. On devrait ne pas avoir d'idée pour aujourd'hui être nommé quelque part. C'est complètement abscon. Il faut regarder, je pense, uniquement la compétence. Est-ce qu'il va être ou non capable de porter et de défendre les intérêts de la France et de la Banque de France? Emmanuel Moulin a évidemment toutes les compétences.
Son sort dépend des sénateurs, les Républicains, et l'un d'eux confie que le groupe est divisé.
Une tournée maintenue mais amputée de 3 concerts. Québec a annulé la venue de Patrick Bruel compte tenu du contexte, disent les organisateurs, référence aux 12 plaintes en France pour viol et agression sexuelle qui ciblent le chanteur. Témoignage poignant des enfants de Laetitia à la barre hier. Cette femme qui accuse son mari, Guillaume Buchy, de l'avoir violée et forcée à la prostitution, le tout sur fond d'actes de torture durant 7 ans. Julie Bro, vous suivez le procès à Digne-les-Bains pour RMC. Les proches du couple ont tous décrit hier un accusé violent au sentiment de toute puissance.
Oui, parmi eux, le fils aîné de l'accusé, 17 ans, se souvient des coups d'un père autoritaire et colérique qu'il préfère désormais appeler monsieur plutôt que papa. Les violences verbales aussi, des mots qui, parce qu'ils touchaient à mon intégrité, faisaient plus mal que les coups, dit-il. J'étais sous son emprise, c'est un homme à qui j'avais peur de dire non, analyse l'adolescent. Un récit similaire à celui des voisins, amis ou ex-compagnes de l'accusé, révélateur d'un mécanisme pervers, soutient maître Philippe-Henri Honegger, avocat de Laetitia, la plaignante.
Chacun est venu dire à son tour, comment il avait à un moment ou à un autre vécu une situation d'emprise dans laquelle il a été enfermé par la violence et les menaces de cet homme. Donc ça vient dresser un portrait absolument terrifiant de celui qui est jugé, mais ça vient surtout étayer et confirmer ce qui a été raconté par Laetitia.
Aujourd'hui, des psychiatres vont à leur tour tenter de dresser le portrait de l'accusé, d'ores et déjà décrit dans certaines expertises comme dépourvu de tout remords ou empathie.
C'est l'annonce de la nuit. Donald Trump sera bien présent au prochain sommet du G7 en France, prévu à Évian-les-Bains du 15 au 17 juin. L'ambiance s'y annonce tendue après l'épisode des hausses de droits de douane. Le foot est premier titre de champion d'Angleterre pour Arsenal depuis 22 ans. Les Londoniens ont bénéficié du match nul de leur dauphin Manchester City hier soir et ils arriveront gonflés à bloc contre le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions le 30 mai. Avant ça, une autre finale, celle de la Coupe de France, ce sera vendredi soir, RC Lens OGC Nice au Stade de France, dont les tribunes seront largement aux couleurs des sang et or et sous haute surveillance, Nicolas Pelletier.
Oui, d'après nos informations, les autorités s'attendent à ce que plus de 40 000 supporters du RC Lens prennent place au Stade de France vendredi soir. Une partie des fans lensois va rejoindre la capitale à bord de 70 bus spécialement affrétés pour l'occasion. Une surveillance toute particulière aura lieu du côté de la gare du Nord où 5 trains en provenance de Lens doivent déplacer des milliers de supporters. Une vigilance pour éviter des incidents dans la capitale. Les services de police spécialisés ont émis la note de 3 sur 5 pour cette finale. En clair, ce match est considéré à risque. Selon des sources policières, autour d'une centaine de supporters lillois les plus sensibles pourraient prendre place aux côtés des fans niçois avec qui l'amitié est forte, avec pour seul objectif d'aller au contact des supporters du RC Lens.
Et cette finale, elle sera évidemment à suivre en direct sur RMC.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome de Croisé-la-Roche.
Départ 13h55, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 9, Carambar. Son outsider, le numéro 2, Joie du Carnois, le 9 et le 2.
C'était le journal de Victor Porcher. Il est 7h38, c'est l'heure de vous inscrire et de jouer avec nous. C'est le moment de tout tenter pour remporter l'un des packs cadeaux Coupe du Monde. Vidéoprojecteur, écran, barre de son, maillot des Bleus, babyfoot. Venez sélectionner un joueur dans la liste des 26 et repartez avec nos cadeaux pour pouvoir gagner. Vous vous inscrivez tout de suite, vous envoyez liste au 732-16. Liste au 732-16, vous avez 5 minutes pour vous inscrire et on sera en direct avec un gagnant à 8h20. Bonne chance à tous.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Des bâtiments qui tombent en ruine, des soignants débordés, épuisés, un système maltraitant, l'hôpital public craque. Et c'est votre constat, Nicolas Béraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour le journal Le Parisien, vous avez mené l'enquête pendant 2 ans et vous publiez aujourd'hui Urgence vitale. C'est un livre enquête sur l'hôpital. Comment sortir de cette situation? On vous écoute dans un instant et puis on vous écoute aussi vous. Appelez-nous au 3216. Dites-nous, vous êtes soignant ou soigné à l'hôpital? Dites-nous votre quotidien, votre expérience. Venez donc témoigner. On vous attend au 3216 ou sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin. RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. 1300 établissements, plus d'un million d'employés, 100 milliards d'euros de budget. Voilà ce que constitue l'hôpital public aujourd'hui. Et pourtant, il est en crise. C'est ce qui ressort de votre enquête, votre livre enquête publié aujourd'hui. Bonjour Nicolas Béraud.
Bonjour.
Vous êtes chef du service adjoint pour le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Vous êtes spécialiste des questions de santé et vous publiez Urgence vitale, pourquoi l'hôpital public
craque. C'est aux éditions Flammarion. 2 ans d'enquête, des centaines de personnes rencontrées, des dizaines d'hôpitaux visités. Comment on en est arrivé là, à des situations où, vous le racontez, c'est le bricolage permanent, un épuisement des soignants, tout un système qui est à bout, des infirmières qui achètent leurs gants en latex elles-mêmes, des médecins qui parfois doivent gérer 10 patients à la fois, des injonctions contradictoires auxquelles ils n'arrivent plus à faire face. Qu'est-ce que vous avez rencontré au long de vos 2 ans d'enquête ?
Bah déjà, je me suis lancé dans cette enquête parce que la crise de l'hôpital, en tant que journaliste santé, j'en entends tout le temps parler et j'écris des articles dessus, mais j'avais un petit peu du mal à comprendre véritablement ce que c'était, quelles en étaient les causes, les conséquences, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps d'enquêter, de rencontrer un maximum de gens, que ce soit des soignants, des médecins, des patients, mais aussi des directions, des responsables administratifs. Il y a plusieurs scènes, sans toutes les citer, mais qui m'ont particulièrement marqué. Il y a celles qui sont très connues, des patients qui restent sur des brancards pendant des heures, voire des jours entiers aux urgences. Je me rappelle notamment, ça m'avait frappé, une femme qui occupait un lit dans un service d'urgence à Paris, qui avait une démence en soi, qui n'avait rien à faire dans un monde idéal, dans un service d'urgence. C'était une, comme on dit, une belle bloqueur. Elle bloquait un lit aux urgences parce que le système dysfonctionne bien au-delà de l'hôpital. Il y a ces bâtiments décrépits. Alors d'ailleurs, c'est un paradoxe incroyable. À l'hôpital public, on y réalise des choses quand même extraordinaire, des opérations totalement dingues, des prouesses médicales avec des médecins de pointe, parce qu'ils sont pas du tout tous partis dans le privé, mais dans les mêmes hôpitaux ou parfois même dans les mêmes unités, vous avez aussi des bâtiments décrépits avec parfois des fils qui pendent du plafond, etc. Donc ça montre qu'il y a un vrai différentiel entre ce qu'on peut faire d'un côté et puis la réalité du quotidien. Donc voilà, c'est une crise qui est complexe. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte, mais les conséquences, elles sont bien visibles pour les soignants et pour les patients, évidemment, en bout de chaîne.
Les médecins, ils sont découragés, mais vous le dites, ils tiennent bon.
Les médecins et les soignants, de façon générale, je pense qu'il faut quand même saluer tout le personnel qui fait vivre tant bien que mal l'hôpital public aujourd'hui, les soignants, les médecins, mais aussi le personnel administratif, les directions, etc. Il tient bon, mais j'ai envie de dire jusqu'à quand ? Il y a plusieurs médecins, plusieurs soignants qui m'ont dit c'est de plus en plus compliqué, on rogne de plus en plus, on est parfois moins un, moins deux au personnel, on ferme un lit, deux lits, cinq lits, dix lits, ça tient encore, on est résilient, mais on ne peut pas forcément garantir qu'on le restera.
Quand est-ce qu'on a basculé là-dedans ? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a basculé ? J'ai l'impression que quand on était enfant, nous, on nous disait que la France, c'était un Eldorado, qu'on était tous extrêmement fiers des infrastructures de soins. Quand est-ce que ça a basculé ? Quand est-ce qu'on est passé du soin comme moteur à une question désormais qui a l'air d'être plutôt des choix faits à cause du coût plutôt qu'à cause de l'efficacité du soin ?
C'est vrai, cette question du financement, elle est prégnante dans la crise que rencontre l'hôpital public aujourd'hui, qui ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Ça fait des années, voire des décennies qu'on en parle. Il y a plusieurs, quand même, moments marquants dans l'histoire. Il y a l'instauration du numerus clausus, notamment, donc cette limitation du nombre de médecins formés chaque année, notamment à l'époque au XXe siècle pour des raisons économiques, parce que les médecins considéraient qu'en étant moins nombreux, ils pourraient avoir une patientèle plus importante et donc les médecins libéraux gagnaient plus d'argent. On s'est rendu compte qu'on avait trop réduit le nombre de médecins formés, donc on a totalement inversé la donne à la fin du XXe siècle, mais quelque part, une grande partie du mal était fait. Il y a eu le changement du mode de financement des hôpitaux. À une époque, il y avait une dotation globale, donc chaque année, on donnait une somme à chaque hôpital, quelle que soit l'activité qu'ils faisaient. Donc, il y avait un peu, c'était pas forcément bien, parce que les hôpitaux qui voulaient faire beaucoup étaient pas forcément avantagés. Ça a été remplacé par cette fameuse tarification à l'activité que maintenant l'hôpital public, en tout cas certains services, sont principalement financés par ce système, à savoir que l'hôpital est rémunéré en fonction des patients qu'il reçoit. Donc ça peut inciter des dérives de faire sortir vite les patients pour en accueillir d'autres.
Ceux qui rapportent moins et garder exactement ceux qui rapportent plus, en quelque sorte.
Ça a été documenté au point que Emmanuel Macron a annoncé qu'il y aurait un changement du mode de financement pour passer à une partie TESA et une partie autre chose.
Est-ce qu'on soigne encore bien en France? On a l'impression que ça tient à un fil. Je voudrais qu'on puisse donner la parole à Jean-Yves qui nous a appelé au 3216. Bonjour Jean-Yves.
Oui, bonjour.
Vous habitez dans le Jura, je crois que vous êtes chargé d'affaires et votre femme a été hospitalisée. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ?
Oui, donc tout à fait. Ma femme a fait un malaise à la maison il y a de ça un peu plus d'un mois. Et elle a été prise en charge par les pompiers sans problème. Elle a été amenée aux urgences. Aux urgences, le premier médecin qu'on a vu nous a parlé d'examens complémentaires qu'elle a été mise en place. Également une radio de la clavicule parce qu'elle était a priori cassée. Et il y a eu un changement de médecin pendant notre temps d'attente. Et le nouveau médecin qui est arrivé, du diagnostic en disant « bon, on va regarder, on va aller faire des examens complémentaires », c'est passé à « votre femme a fait une crise d'épilepsie ».
Ah d'accord, donc on est passé de clavicule cassée à crise d'épilepsie.
Voilà, et également donc une radio sur la clavicule. La clavicule, on nous a dit, c'est pas a priori, c'est pas déplacé, vous pouvez rentrer chez vous. Donc on est ressorti au bout de quelques heures, on est ressorti avec un traitement anti-épileptique lourd. Et également une radio, donc un contrôle de la clavicule à faire d'ici 10 jours. Et on n'a pas voulu rester comme ça. Le lendemain, la clavicule avait l'air d'être plutôt déplacée qu'autre chose. On est retourné voir notre médecin traitant. Et là, notre médecin traitant a pris peur. On a pu récupérer les radios qui avaient été faites. On est reparti des urgences sans les radios. On les a récupérées et il s'est avéré que, pour un défaut d'une clavicule peut-être déplacée, il y avait un déplacement de 2,5 cm de la clavicule.
Ah oui.
Oui.
Et l'épilepsie, c'était confirmé?
Et l'épilepsie n'a jamais été confirmée. Et elle a refait le traitement a été relativement lourd.
Est-ce que vous estimez, Jean-Yves, que c'est dû au débordement? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu face à vous des médecins qui étaient tellement débordés? Alors,
je ne pense pas forcément au débordement, mais je pencherai plutôt pour la prise en charge, le défaut de prise en charge. À l'hôpital, aux urgences, ils ont traité a priori une certaine urgence, mais un diagnostic a été posé trop rapidement, sans prendre le temps, et la vraie, enfin pour nous, la vision qui aurait dû être faite, c'était d'une hospitalisation, voir pourquoi aujourd'hui, ça fait un mois et demi qu'elle a eu son malaise, aujourd'hui on n'a toujours pas de diagnostic de posé, la crise d'épilepsie, elle a arrêté son traitement parce que ça la minait, et aujourd'hui...
Et il n'y a toujours pas de diagnostic, c'est exactement une des questions justement qui se pose, Jean-Yves. Au fond, l'exemple de ce qu'a vécu Jean-Yves, Nicolas Béraud, c'est la question aussi de l'hospitalisation et du nombre de lits. C'est-à-dire que quand on a si on a des lits derrière, on se dit j'ai un doute sur ce diagnostic, je vais peut-être garder le patient une journée, deux journées pour pouvoir prendre le temps de poser un diagnostic. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que ce défaut de lit peut entraîner aussi des erreurs, une rapidité, des mauvais diagnostics posés.
Oui, parce qu'on parle beaucoup des urgences débordées. C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'elles débordent? Il y a deux facteurs. Il y a le fait qu'il y a de plus en plus d'entrants aux urgences, notamment parce que la crise de l'hôpital, ce n'est qu'une partie de celle du système de santé, avec moins de médecins libéraux, notamment dans les campagnes. Donc il y a des gens qui vont directement à l'hôpital alors qu'ils auraient pu être pris en charge ailleurs. Et puis, de l'autre côté de la chaîne, si je puis dire, comme il y a eu beaucoup de fermetures de lits depuis le Covid, même si dans certains hôpitaux la tendance s'inverse, il y a moins de places pour accueillir des patients des urgences. Donc, il y a des patients qui sont toujours aux urgences alors qu'ils pourraient être pris en charge dans un lit classique.
On fait comment? C'est-à-dire que vous y croyez malgré tout, et c'est aussi vraiment tout à votre honneur, c'est que non seulement vous voyez effectivement cet hôpital qui craque et dans lequel on bricole, mais vous estimez qu'on peut réussir à sauver l'hôpital?
Bien sûr, alors il y a plusieurs solutions. La crise est compliquée, il n'y a pas un facteur d'explication unique, de même qu'il n'y a pas une solution miracle, sinon ça se saurait. Mais il y a plusieurs pistes. Déjà, la priorité, je pense, ou l'une des priorités, c'est de redonner envie aux soignants, aux médecins de venir ou de rester bosser à l'hôpital public. Donc ça passe peut-être par de nouvelles revalorisations salariales, mais aussi par des choses, par exemple, aménager les temps de travail. On sait que les nouvelles générations de médecins, de soignants aujourd'hui n'ont plus forcément les mêmes attentes de ce point de vue-là que celles d'il y a 30-40 ans. Donc ça peut être des semaines avec moins de jours travaillés, mais des journées plus longues. Ça peut être d'améliorer la qualité de vie au travail en mettant fin à certaines pratiques qu'on constate toujours avec des chefs de service qui peuvent se comporter mal. En tout cas, c'est vécu comme tel par les jeunes médecins, les soignants. Donc ça, il y a aussi le côté à améliorer l'accès aux soins en dehors de l'hôpital, parce que comme je l'ai dit juste avant, la crise de l'hôpital, ce n'est qu'une partie de celle du système de santé. Donc il faut mettre le paquet, si je puis dire, sur l'accès aux soins dans des maisons de santé, dans des cabinets de ville, etc. Et puis la prévention, parce que la meilleure façon de ne pas avoir besoin d'aller à l'hôpital, c'est évidemment de ne pas tomber malade. Et la France, que ce soit sur la vaccination, sur le sport, sur l'alimentation, sur beaucoup, beaucoup de choses, elle pourrait mieux faire aussi de ce point de vue-là. Donc oui, il y a des raisons de croire qu'on peut sauver l'hôpital public, mais il faut agir et ne plus attendre.
Et il faut lire votre livre. C'est une véritable plongée aussi dans la réalité de cet hôpital public. Merci d'être venu nous délier votre enquête. Nicolas Béraud, chef du service adjoint au journal Le Parisien aujourd'hui en France. Et votre livre, ça s'appelle Urgence Vitale. C'est aux éditions Flammarion. Merci aussi à Jean-Yves pour son témoignage. Il est 7h52 et c'est la voix de droite, Louis Sarkozy, qui est entré dans ce studio. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Est-ce que la France a trop fait pour ses retraités?
C'est pas seulement qu'elle fait trop, c'est qu'elle est en train, la France, à petit feu, de tuer et d'assassiner sa jeunesse.
Ah carrément, on a fait le choix des vieux contre les jeunes.
À notre propre détriment.
Vous nous le dites dans un instant, il est 7h52.
RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite. Mais d'abord, le bonus. Mathieu Aristide, qui est devenu une valeur sûre économique. Ouais, vous allez me parler économie et pas musique.
Encore à battre le chanteur britannique qui va enchaîner 12 concerts au mythique stade de Wembley cet été. 12, c'est deux de plus que le précédent record détenu par Coldplay. Mais surtout, c'est un investissement plus que rentable. Avec cette résidence dans la capitale anglaise, Harry Styles va générer plus d'un milliard d'euros de retombées économiques. Plus fort que Taylor Swift ou même Oasis pour sa tournée de retour. C'est la banque Barclays qui a fait les comptes. Et oui, j'ai des correspondances avec des amis d'Emmanuel Le Chypre. La banque Barclays qui calcule les recettes et les retombées économiques. Hôtels, restaurants, transports, produits dérivés. Chaque fan dépenserait en moyenne près de 1000 livres pour vivre l'expérience Harry Styles. C'est comme
vous
ça qu'il l'appelle.
En l'appelant Harry Styles, je montrais bien que... En fait, moi, j'ai toujours un problème, je ne connais jamais leur nom. C'est-à-dire, j'adore ces musiques, mais je ne connais jamais leur nom. C'est ma façon à moi de résister.
Eh ben, je vous propose qu'on fasse une cagnotte et qu'on trouve 300€ pour les places en fosse pour Apolline. Voilà. Elle ira crier Harry Styles, Harry Styles. Et elle vivra l'expérience Harry Styles dont parle la banque Barclays.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
C'est le jour de la voix de droite sur RMC parce que c'est mercredi et c'est donc vous, Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Ce matin, vous revenez sur l'alerte du gouverneur de la Banque de France. Pour François Villeroy de Gallo, la France devient une gérontocratie. Il estime que nos arbitrages collectifs ont été jusqu'à présent toujours en faveur des seniors. Qu'est-ce que vous en pensez ?
En vérité, Apolline, les civilisations ne sont que rarement assassinées. Par contre, elles se suicident assez souvent. La France est en train, justement, de se suicider lentement, poliment, démocratiquement, mais sûrement. Et ce suicide a un nom, la gérontocratie. François Villeroy de Gallo a osé poser la question que tous les politiques connaissent et qu'aucun n'ose formuler. Bravo à lui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par gérontocratie ?
Alors, c'est parfaitement simple. La France dépense aujourd'hui 14% de son PIB en retraite. C'est un record mondial. Pour comparaison, l'Allemagne 10%, États-Unis 7%, Suède 9%. Et nos cotisations retraite ne suffisent même pas. Le système par répartition s'écroule sous son propre poids. L'État doit piocher pour le soutenir dans la TVA, dans la CSG, dans les impôts. Bienvenue en France. Quand vous achetez une baguette de pain, vous financez la retraite de quelqu'un d'autre. Or, les retraités français sont devenus la classe sociale la plus riche du pays. Plus haut taux d'épargne, plus haut patrimoine moyen, plus bas taux de pauvreté et taux de propriété immobilière de 75%. Pendant ce temps-là, juste pour comparer, 25% des moins de 30 ans vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est ça la solidarité française ? D'assassiner nos jeunes ?
Enfin, c'est le principe même de la répartition. Les actifs qui payent pour les retraités, qui ont eux-mêmes payé avant eux.
Oui, enfin, ça c'est le contrat des années 70. Mmh. À l'époque, un retraité vivait 10 ans à la retraite et 4 actifs le financer. Aujourd'hui, un retraité vit 25 ans à la retraite et nous sommes à 1,7 actifs par retraité, bientôt 1,4. Le contrat a été rompu par la démographie et par la longévité, mais on continue à faire comme si de rien n'était. Et vous savez qui paye pour cette fiction ?
C'est Nicolas qui paye. Vous allez me dire, c'est Nicolas qui paye.
Mais bien évidemment que c'est Nicolas, le jeune cadre, 35 ans, marié,
ce personnage créé par les réseaux sociaux.
Avec une grande justesse d'ailleurs, qui gagne sa vie correctement et qui, en additionnant impôts sur le revenu, charges, TVA, taxes foncières, taxes d'habitation, CSG, prélèvements divers et variés, donne plus de 50% de ce qu'il produit à l'État. Pour financer quoi ? Les pensions de la génération de ses parents. Nicolas, lui, ne sera jamais propriétaire à Paris. Il n'aura jamais une retraite équivalente à celle de ses parents. Et il vivra dans la difficulté toute sa vie parce que le système est organisé contre lui.
Pourquoi rien ne bouge politiquement ?
Alors là, écoutez bien, cher auditeur, je vous en conjure. Les retraités sont la première force électorale de France. 17 millions de retraités. 80% de taux de participation aux élections. Les moins de 30 ans, 50% d'abstention. Les politiques savent compter. Vous croyez vraiment que Le Pen, Bardella, Mélenchon vont aller dire à 17 millions d'électeurs qu'il faut baisser leur retraite, baisser leur pension ? Jamais. C'est pour ça que rien ne bouge. Soit les politiques mentent, soit ils ne disent rien. Dans les deux
Donc
cas,
on fait
c'est
quoi
criminel.
On fait quoi ? On baisse les retraites ?
Alors, pas toutes. Et c'est essentiel de le dire. Pas question de toucher aux petites retraites, bien évidemment. Un retraité à 1 200€ par mois qui a cotisé toute sa vie, c'est sacré. Mais les grosses pensions, sans hésiter, Apolline. C'est une question de survie. Il faut des plafonnements progressifs, des indexations différenciées et un effort de solidarité explicite. On ne demande pas aux retraités de souffrir. On leur demande de contribuer, comme les autres, à la solidarité nationale. C'est ça ou c'est le plan de sauvegarde du FMI dans 15 ans.
Et Louis Sarkozy, vous ferez la prochaine chronique sur la démographie peut-être et sur les bébés, parce que pour sauver la France, il faudra peut-être faire des enfants du coup.
Mais c'est absolument essentiel, et pas seulement pour le plaisir, Apolline. L'effondrement, si c'est l'inaction. La fécondité est à 1,62 enfants par femme. Aujourd'hui, c'est le plus bas niveau hein, depuis 1946. Si rien ne change dans 30 ans, il y aura un actif pour un retraité. Le système s'effondrera mathématiquement. Et puis vous écoutez les jeunes Français ? Enfin, qui croit en ce pays aujourd'hui ? Ils partent. Ils partent à Londres, à Berlin, à Dubaï, à Lisbonne, à Montréal. Tous ceux qu'ils peuvent partent. Quand votre meilleure génération disparaît, celle qui devrait produire, innover et financer ce qu'il reste de notre système, vous tutoyez la mort.
La France se suicide. C'est donc la voix de droite qui nous le dit ce matin. Louis Sarkozy, merci à vous. Dans un instant, la météo du journal, 7h59.